Bonjour à tous. Dans cet épisode, nous avons eu le plaisir de recevoir Barbara Vulpinari. Orthophoniste de formation, elle se consacre désormais à l'étude du domaine de l'entraînement sportif et de la nutrition. En tant que nutritionniste, elle accompagne désormais des personnes dans leur démarche pour retrouver un lien apaisé avec la nourriture et leur image corporelle. Passionnée par la physiologie et le métabolisme, elle aide les sportifs de tous niveaux à adapter leur nutrition à leur activité physique. Dans cet épisode, elle explore l'équilibre de l'assiette, les troubles du comportement alimentaire et le rôle de la société dans la perception du poids. Bonne écoute.
Salut Barbara.
Salut.
Salut Nina. Salut Johan.
Alors on est très content de t'avoir dans ce nouvel épisode de Bien dans ses baskets. Et donc, la première question qu'on pose à tous nos invités, c'est selon toi, qu'est-ce que cela signifie être bien dans ses baskets ?
Alors, c'est une vaste question, mais je dirais qu'être bien dans ses baskets, c'est être bien avec ce qu'on véhicule, avec les valeurs qu'on a envie de partager. Et peut-être d'avoir des baskets assez cool qui nous permettent d'être confortables pour se déplacer et faire ce qu'on a envie de faire dans la vie. Je dirais ça tout simplement.
Très belle réponse. Et justement, est-ce que tu peux te présenter ce que tu fais, la personne que tu es ?
Oui. Alors, je m'appelle Barbara Vulpinari pour ceux qui me suivent sur les réseaux. Il y a quelques années, j'étais orthophoniste de formation initiale. Et puis, comme je suis passionnée d'alimentation, de sport depuis toute petite, je me suis d'abord formée en sciences de l'entraînement et de la nutrition en musculation. Donc, je suis personal trainer en musculation. Et comme ça ne me suffisait pas et que j'avais d'autres intérêts pour l'alimentation, en fait, dans le métier d'orthophoniste, parce qu'on traite les troubles de l'oralité, j'étais particulièrement formée aussi dans les troubles de l'alimentation chez les personnes qui ont des troubles du spectre autistique. J'ai décidé de partir en master en nutrition avec une spécialité en nutrition sportive. Donc j'ai été diplômée maintenant il y a 2 ans. Voilà un petit peu pour mon parcours en gros. Et puis je m'intéresse pas mal à la littérature scientifique sur le sujet du REDS. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et je viens de publier d'ailleurs un article scientifique dans un journal peer review il y a quelques semaines, mois, voilà, sur les troubles alimentaires chez les sportives.
D'accord, super. Et du coup, la première question qu'on souhaitait te poser, c'est donc, est-ce que le fait de bien manger, ça nous permet d'être donc d'abord bien dans notre corps, mais aussi bien dans notre tête ?
Alors, tout de suite, je vais dire oui. Mais il y a plusieurs raisons à ça et je pense que c'est assez individuel. Mais en fait, si on est trop focus sur son alimentation, déjà si on mange pas assez, on va avoir tendance à développer un focus très marqué sur l'alimentation parce que le corps il va juste nous faire remarquer qu'il manque, il manque quelque chose à sa survie. Donc il y a ça et on va pas être disponible finalement pour faire autre chose que penser à la nourriture. Et donc, en ça, pour moi, c'est super important de bien manger, déjà manger suffisamment. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est la première chose à laquelle je pense, c'est quand on ne mange pas suffisamment ou qu'on se sent restreint dans son alimentation, on va avoir tendance à beaucoup se focaliser sur la nourriture et c'est normal, en fait, c'est juste un instinct de survie du corps.
Ok, mais finalement, qu'est-ce que c'est bien manger et qu'est-ce que c'est aussi manger de manière suffisante ?
Alors, je vais peut-être commencer par manger de manière suffisante. Manger de manière suffisante, ça couvre du coup nos besoins énergétiques de base. Donc en fait, comment ça se passe ? Notre corps, il dépense de l'énergie, d'accord, pour vivre. Donc même si vous êtes allongé sur votre canapé toute la journée, votre corps il va dépenser de l'énergie parce que vous avez des organes qui fonctionnent. Un cœur qui bat, des poumons qui respirent, un système digestif, etc. Et puis pour faire fonctionner votre cerveau, bien sûr. Donc même si vous ne faites rien, vous avez besoin de manger. En dessus de ces activités de base, on va dire, il y a les activités quotidiennes, donc le fait de travailler, le fait de lire, d'échanger autour de soi, de cuisiner, les tâches quotidiennes aussi qu'on a, nos loisirs aussi. Et puis, au-delà de ces activités quotidiennes et tout ça, on a l'activité sportive qui, pour moi, est vraiment une activité corporelle à part, parce qu'elle va demander un surplus énergétique pour que le corps puisse s'adapter à l'activité physique. Donc en fait, manger suffisamment, ça veut dire manger pour que le corps ait suffisamment d'énergie pour pouvoir faire toutes ces activités-là, les activités de base, les activités quotidiennes, etc., et l'activité physique. Ça, c'est manger suffisamment. Chez l'individu, tout venant, on va dire sans pathologie particulière, je préfère le préciser. Et qu'est-ce que c'est bien manger? Alors, bien manger, ça dépend de chacun, mais bien manger, pour moi, c'est juste manger varié, c'est répondre à ses envies, à son appétit, manger selon sa faim, s'arrêter quand on n'a plus envie de manger. Ça, pour moi, ce serait bien manger. Manger diversifié sans se poser trop de questions, en fait. Juste être complètement en phase avec ses sensations de faim, ses sensations d'envie alimentaire, de répondre aussi à des envies de plaisir alimentaire. Ça, c'est super important pour garder un lien qui soit apaisé avec la nourriture. Et puis, peut-être dans le bien manger, il y a aussi cette partie nutrition sportive qui est importante parce qu'elle est un peu plus spécialisée et c'est pas forcément des connaissances qu'on a de base sur l'alimentation. Quelqu'un qui se met au sport, par exemple, ne va pas forcément avoir conscience des apports nécessaires, déjà en termes de quantité et de peut-être de comment adapter son alimentation à sa pratique sportive. Et bien sûr, bah, plus la pratique sportive est importante, plus il va falloir mettre en place des adaptations adaptées aussi.
Ok, très bien. Et est-ce que tu penses, si on mange de manière intuitive, c'est-à-dire manger quand on a faim et boire quand on a soif, est-ce que cela permet de répondre à nos besoins physiologiques, qu'on soit sportif ou non d'ailleurs?
Ok, alors ça c'est une question intéressante. Déjà, il faut savoir, il faut définir ce qu'on entend par intuitif. Parce que si tu veux, l'alimentation intuitive, c'est un concept qui a été importé des États-Unis. Et puis il y a l'alimentation intuitive comme on l'entend tous, c'est-à-dire on mange quand on a faim, on s'arrête quand on n'a plus envie de manger, quelle que soit l'heure, ben si on a faim, on s'autorise à manger. Si on a envie d'une pâtisserie, en passant devant une pâtisserie, on s'arrête et on la prend sans se poser de questions. Pour moi, l'alimentation intuitive, en fait, je vais pas parler forcément du concept qui a été importé, mais c'est l'alimentation intuitive que l'enfant développe quand il n'est pas soumis aux règles alimentaires de la société et à ce qu'on lui impose finalement. Donc, à s'alimenter intuitivement, c'est répondre à sa faim quand on a faim. Mais c'est pas forcément s'arrêter quand on n'a plus faim. Ça, c'est souvent un écueil, parce que quand la faim disparaît, ça veut pas dire que j'ai rempli suffisamment les réserves d'énergie pour subvenir à mes besoins. Donc en fait, souvent, ce qu'on oublie, c'est que manger, c'est pas seulement manger quand j'ai faim et m'arrêter quand je n'ai plus faim, c'est aussi manger quand j'ai envie de manger, quand j'ai de l'appétit pour quelque chose. D'accord ? L'appétit, c'est vraiment l'envie de manger. Donc ça, c'est s'alimenter intuitivement. Effectivement, quand on regarde dans la littérature, on se rend compte que les gens qui ont ces capacités-là à être très connectés à leurs signaux internes, finalement, effectivement, ils vont avoir un rapport à l'alimentation qui va être plus apaisé, en tout cas plus sain, que les personnes qui pourraient développer, en tout cas, des comportements qui s'éloignent des normes, qui deviennent un peu pathologiques. Donc, pour parler simplement, des désordres alimentaires, voire des troubles alimentaires. Je pourrais peut-être évoquer la différence entre les deux, d'ailleurs, si ça vous intéresse.
Avec plaisir.
Mais en tout cas, bon, pour cette question-là, oui, pour moi, il vaut mieux être vraiment garder ses sensations corporelles et se réguler en fonction de ses sensations corporelles. Par contre, ce qu'on sait, c'est que l'appétit ou la faim n'est pas forcément représentatif des besoins chez les sportifs et les sportives. Ça veut dire que quelqu'un, par exemple, qui se met à faire du sport d'endurance, je prends les sports d'endurance parce que effectivement, c'est des sports qui vont dépenser énormément d'énergie, d'accord, mais ça pourrait être la même chose pour d'autres sports. Le besoin en énergie que le sport va induire ne va pas forcément être retranscrit en appétit ou en faim. Donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant, et je pense que là où peut-être que c'est dommage au niveau des messages de santé publique, c'est qu'on est vraiment encouragé à faire de l'activité physique, encouragé à bouger, etc. Mais finalement, on n'a quand même pas de message de prévention sur attention quand même, parce que chez l'adulte tout venant, même chez l'adolescent, qui n'ont pas de pathologie particulière, ben, faire du sport, ça demande plus d'énergie et ça demande un peu d'adapter quand même son alimentation à ça. Et donc pour revenir sur la différence entre les désordres alimentaires et les troubles alimentaires, alors la littérature, elle voit plutôt ça sur un continuum, si vous voulez. En gros, on a d'un côté une alimentation qui est entre guillemets saine, optimale, voilà, à laquelle on s'adapte bien, où tout va bien, en gros, on n'a vraiment pas de problème avec la nourriture, on ne se pose pas de questions. Au milieu du continuum, il va y avoir les désordres alimentaires, où là, il va y avoir des comportements un peu plus pathologiques qui vont commencer à se mettre en place. Ça veut dire que on va pouvoir commencer, par exemple, à compenser ce qu'on mange avec le sport. On va vouloir regarder un petit peu les calories. On va peut-être mettre en place plus de comportements de contrôle. On va se dire qu'on va faire de l'activité physique justement pour dépenser de l'énergie et donc pour contrôler son poids. Voilà, ça c'est les désordres alimentaires. Et à l'autre extrémité du coup du spectre, il y a les troubles des conduites alimentaires qui sont décrits dans le DSM-5. Comme des pathologies mentales à part entière qui sont très graves, avec des critères diagnostiques précis. Mais du coup, ce qu'on sait, c'est que le développement de désordres alimentaires, et notamment chez les sportifs, ça peut vraiment glisser vers des troubles des conduites alimentaires cliniques, et que c'est pas parce qu'on présente des désordres alimentaires, pardon, donc pas forcément tous les critères diagnostiques, qu'il ne faut pas se préoccuper justement de cette problématique-là.
D'accord. Et du coup, comment justement garder un souci d'une alimentation équilibrée, de faire attention à répondre à nos besoins, tout en ne pas tomber dans le trop de contrôle, trop de regard sur notre assiette.
Tu veux dire dans le cadre d'une pratique sportive ou pas forcément ?
Pas forcément. De manière générale, comment garder l'équilibre ?
L'individu tout venant, il a normalement pas besoin de se poser de questions sur son alimentation. C'est vrai qu'on vit dans un environnement, on vit quand même dans une société dans laquelle je pense que l'industrie a une place importante et qu'effectivement on a à disposition des aliments et on a à disposition une alimentation finalement qui peut être très transformée et pas forcément dense en nutriments, donc en vitamines et en minéraux. Mais normalement, à part ça, la personne qui va bien n'a pas besoin de se poser trop de questions sur son alimentation. Si elle mange varié, il n'y a aucune inquiétude à avoir sur son alimentation. Donc voilà, le problème c'est que l'alimentation, ça n'évolue pas dans un environnement qui est fermé. ça veut dire qu'elle est impactée par vraiment des centaines de facteurs. Notre alimentation, elle est influencée par, elle peut être influencée par notre humeur, par exemple. Elle peut être influencée par notre environnement social. Donc, est-ce qu'on est en train de manger avec des amis ou pas? Elle va être influencée par, évidemment, notre budget. Elle va être influencée par l'estime de nous-mêmes qu'on a. Donc, en fait, voilà, il y a vraiment plein de facteurs qui gravitent autour de l'alimentation, j'ai envie de dire. Mais normalement, on n'a pas trop besoin de se soucier de ce qu'on mange si on n'a pas une pratique sportive particulière. On n'a pas besoin de contrôler ce qu'on met dans notre assiette et dans notre tube digestif, disons. Là où ça se complique, comme je le disais, c'est qu'effectivement, il y a énormément de facteurs qui jouent sur ce qu'on mange, et notamment le fait d'évoluer peut-être dans une société dans laquelle il est très facile de se procurer des aliments qui sont pas forcément... riches en nutriments. Voilà. Après, si on est sportif ou sportive, je pense que c'est vraiment intéressant de faire un point avec un ou une nutritionniste qui est formée là-dessus, en nutrition du sport, pour pouvoir adapter son alimentation sans avoir besoin finalement de contrôler. Mais juste, voilà, à se dire, il faut que je pense, par exemple, un pratiquant de musculation, il faut que je pense à avoir régulièrement des protéines. Dans mon alimentation, une personne qui va faire du sport d'endurance, elle va savoir que au bout de plus d'une heure d'effort, il va falloir qu'elle apporte des glucides, etc. Donc c'est des petits ajouts, mais c'est pas forcément du contrôle. C'est juste de l'ajout. Sachant que on peut totalement adapter son alimentation à sa pratique sportive en restant justement dans la nuance. Ça veut dire, ok, je suis pratiquant de musculation, je sais que j'ai besoin d'un peu plus de protéines que la normale, donc c'est important que j'en ai régulièrement. Peut-être autour de mes entraînements, c'est important que j'en ai régulièrement. Je fais un entraînement, le soir, je suis invitée à manger une pizza. Sur ma pizza, il n'y a pas de jambon, c'est pas grave en fait. Vous voyez l'idée ? C'est de toujours se dire, c'est pas grave si à certains repas, j'ai pas un quota de protéines... strict, c'est pas grave si dans un repas j'ai pas de légumes. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est toujours rester dans la nuance en fait.
Oui, je pense que c'est important de rappeler aussi que l'alimentation, ça se fait pas seulement sur un repas, mais sur 24, 48, voire une semaine entière, et qu'en fait l'équilibre il se joue là et pas sur une seule prise alimentaire.
Exactement, et même je dirais qu'il se fait vraiment au plus long terme qu'à une semaine. Okay. L'équilibre alimentaire, il se fait sur des semaines, voire des mois. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui a une inertie assez, assez importante.
Ok. Et du coup, c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure au sujet de l'appétit, et notamment chez le sportif, où justement, on sait que l'appétit n'est pas à la hauteur de ses besoins. Et tu parlais d'autres signaux. Quels peuvent être, par exemple, les autres signaux qui peuvent activer la sonnette d'alarme?
Alors, ce qui peut se passer, c'est le développement de fringales. Donc, on va dire que il y a des moments où on va se mettre à manger et en fait, on se rend compte qu'on n'arrive quasiment pas à s'arrêter ou on a l'impression un petit peu de perdre le contrôle parce que d'un coup, on se met à avoir très, 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 très faim. Et du coup, on a l'impression, en tout cas, de manger énormément, mais c'est simplement qu'il y a potentiellement un déficit énergétique qui s'est accumulé, donc il n'y a pas eu assez d'apport énergétique peut-être sur une période plus ou moins longue. Et donc, on peut avoir ce type de comportement, donc ce type de ressenti, en tout cas, avec l'émergence de fringales. Fatigue, des signaux de fatigue, donc baisse de la concentration, une augmentation de l'irritabilité aussi, on ne sait pas trop pourquoi, mais on est un peu plus à fleur de peau, il y a des choses qu'on supporte moins, ce genre de choses. En tout cas, c'est les signaux principaux. Bien sûr, dans la pratique sportive, ce qu'on peut remarquer, c'est des performances qui sont, euh, qui augmentent moins ou en tout cas qui stagnent ou on se sent pas forcément super bien pendant nos séances de sport. Mais ça, je mets un petit warning là-dessus parce que en fait, ça peut prendre du temps avant d'en arriver là. Parfois, ça peut même être l'inverse. Ça veut dire que s'il y a un déficit, il y a une espèce de boost, des fois, qu'on peut expérimenter. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de déficit énergétique.
Très bien. Et justement, est-ce que tu aurais des conseils au niveau de l'alimentation pour rester justement dans cet état d'équilibre et de nuance, comme tu l'as dit juste avant, voilà, qu'on soit sportif ou non sportif. Comment rester vraiment dans un équilibre et pour vraiment entretenir un rapport sain avec l'alimentation et la nourriture?
C'est une vaste question aussi. Je vais peut-être parler en termes d'alimentation. C'est ne pas rigidifier son alimentation, c'est-à-dire ne pas se créer de règles alimentaires qui vont faire que les comportements alimentaires vont pouvoir se déréguler complètement. Ce qui peut induire du coup une perte de totale confiance en ces signaux, et ça c'est problématique. Donc ne pas se créer de règles alimentaires, c'est-à-dire que ce soit en termes d'horaire, je dois manger à telle heure, etc., et pas manger à d'autres heures si j'ai faim, par exemple. Ça peut être ne jamais supprimer de nutriments aussi. Donc éviter les règles du type je ne mange pas de féculents par exemple le soir, ou même je mange pas de féculents le midi et je réserve des calories pour le soir. Ça va être vraiment des comportements dangereux en fait, qui peuvent vraiment glisser vers des troubles alimentaires graves. Ça peut être évidemment ne pas s'interdire d'aliments. Donc tout à l'heure je disais qu'on vit effectivement dans une société dans laquelle on a accès à une nourriture plus facilement, plus dense en énergie, peut-être moins riche en nutriments. Ça veut pas dire qu'on doit l'exclure de notre alimentation. Ça veut peut-être dire que vaut mieux être conscient de ce qu'on mange, apprécier ce qu'on mange si on en a vraiment envie, sans se dire c'est pas bien ce que je fais, je vais devoir compenser. Ça veut dire que si je mange un cookie, pendant une semaine par exemple, je ne mange plus du tout de gâteau. Donc ça va être ce genre de règles rigides là aussi qu'il va falloir éviter. Et donc si on sent qu'on a tendance un petit peu à avoir ce genre de pensée là, parce qu'en fait ça va vraiment se manifester sous forme de pensée, la personne elle va pouvoir se dire par exemple oh là là, aujourd'hui j'ai mangé deux granola à 4 heures, je suis nulle, j'ai pas de volonté, les produits ultra transformés c'est mauvais, etc. Donc voilà, vraiment prendre du recul par rapport aux pensées qu'on peut avoir sur son alimentation. Et si on sent que ça dévie un peu vers quelque chose de, en tout cas qui peut nous faire du mal finalement, il ne faut pas hésiter à consulter quelqu'un qui est spécialisé dans les troubles alimentaires. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Donc, ne pas se créer de règles. Et dans l'activité physique, je pense que malheureusement, il ne faut pas encourager... Enfin, malheureusement, pour moi, plutôt heureusement, mais malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'engagent dans l'activité physique ou dans le sport dans le but de maigrir. Et ça, effectivement, ça va être une porte vers, le contrôle de la nourriture et de l'activité physique. Et donc, il va y avoir un cercle vicieux qui peut se créer. Je ne dis pas que c'est systématique, mais je dis que ça arrive souvent quand même. Le fait de commencer une activité physique pour maigrir, et donc du coup, il va falloir faire... Enfin, ça va un peu un cercle vicieux qui va s'auto-alimenter. Je vais contrôler ce que je dépense, je vais contrôler ce que je mange pour arriver à mon objectif de maigrir. Et donc, moi, je suis plus partisane du sport santé et du sport plaisir, c'est-à-dire qu'on pratique une activité physique pour le plaisir et pas forcément pour le contrôle du poids et pour le contrôle de son image corporelle. Donc ça, c'est quelque chose qu'on observe beaucoup. Par exemple, chez les pratiquants et les pratiquantes de musculation, on va pas se mentir, la pratique du bodybuilding modifie l'aspect corporel. Et donc, pour une grande majorité des pratiquants, la musculation, c'est un moyen, finalement, de modifier son image corporelle. Mais c'est aussi à double tranchant, parce que une fois qu'on commence à contrôler son image corporelle, ça peut être, en tout cas, ça peut dériver vers une pratique toxique de la musculation. Et donc, c'est pareil, ça va en ricochet, en fait, sur l'alimentation. Puisque si on contrôle son image corporelle par le sport, il y a de grandes chances, en fait, qu'on continue à contrôler son poids par l'alimentation.
Et du coup, tu parles de règles, notamment au sujet de l'alimentation, et qu'il faut être attentif à cela. Mais comment t'expliques tous les dictons un peu qu'on nous véhicule en étant petit, par exemple manger 3 produits laitiers par jour, manger 5 fruits et légumes par jour. Est-ce que pour toi, c'est des choses déjà qui sont vraies? Et est-ce que c'est pas plutôt délétère sur du long terme?
Alors, les recommandations nationales de santé, elles sont appuyées sur des preuves solides. Donc oui, quand on dit par exemple à l'adolescence consommer 3 portions de produits laitiers par jour, etc. Oui, bien sûr que c'est vrai. Après, si tu manges 2 produits laitiers dans une journée ou 1 produit laitier pendant 2 jours et puis qu'après t'en manges 4, c'est pas si rigide que ça. C'est juste pour inciter un petit peu les gens à faire attention à ça dans leur alimentation. Pareil pour 5 fruits et légumes par jour. En fait, 5, bon bah voilà, si t'en as 4 un jour et puis 5 ou 6 l'autre jour, c'est pas grave. Si dans un repas t'as pas de légumes, et ben c'est pas grave. Si un jour tu manges pas de fruits, c'est pas grave. C'est juste que l'essentiel, c'est que sur la régularité, en fait, dans la plupart de tes repas, tu as plaisir à cuisiner les légumes. Par exemple, tu as plaisir à prendre un fruit en dessert ou en collation, ou petit déjeuner, enfin peu importe, tu vois. C'est juste garder du plaisir dans son alimentation et peut-être avoir une curiosité alimentaire à ce niveau-là. C'est vrai qu'on n'est pas tous nés avec avec la même éducation alimentaire et on n'est pas tous nés avec le même accès aussi à la nourriture. Donc bah voilà, forcément, malheureusement, les classes sociales les plus défavorisées, elles vont avoir un accès à une nourriture de qualité qui va être moins importante que dans les classes sociales supérieures. Donc il y a ça aussi, c'est cultiver en gros la curiosité alimentaire et prendre du plaisir dans son alimentation en cuisinant des choses qui nous font plaisir, mais en essayant d'introduire justement des légumes, par exemple, ou des fruits. Apprendre un petit peu à élargir son éventail d'aliments. Et du coup, comment on se sent par rapport à ça aussi? Parce que c'est ça qui est important, en fait. Quand on rajoute des choses dans son alimentation, et quand on essaye par curiosité de cuisiner, de goûter des choses, etc. Ok, bah comment on sent après avoir goûté ça? Est-ce que ça nous a plu? Est-ce que ça nous a pas plu? Comment on se sent aussi d'un point de vue énergique quand on change son alimentation? Ça, je pense que c'est important.
J'aimerais bien revenir sur l'image corporelle dont tu as parlé tout à l'heure. Est-ce que tu penses pas qu'il y a aussi une sorte de pression par rapport au poids, notamment dans tous les sports d'endurance? Je pense notamment, on va dire, un marathonien, il faut que ce soit fin. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a une forme de pression aussi par rapport au poids dans les sports d'endurance?
Complètement. C'est vrai que donc, j'ai pris l'exemple du bodybuilding, enfin de la musculation, parce que l'apparence, il n'y a pas que le poids. Il y a vraiment le fait qu'il y a une certaine forme. Tu vois, c'est vraiment le culte, en gros, de la masse musculaire, on va dire. Mais c'est pas du tout le seul sport dans lequel le poids a son importance. Les sports qui sont notamment à risque de développement des troubles des conduites alimentaires, par le contrôle du poids, par le contrôle du corps, etc., de l'alimentation. Donc il y a 3 catégories en gros qui ressortent dans la littérature, même si tous les sports placent à risque. Il y a justement les sports d'endurance, ou les sports à composante gravitationnelle, on appelle ça. Ça va comprendre les sports d'endurance comme la course à pied, le cyclisme, mais aussi l'escalade, par exemple. Tu as les sports ensuite à catégorie de poids, donc ceux pour lesquels la compétition va être conditionnée par un poids, par une tranche de poids. Donc ça va être l'haltérophilie, la boxe, enfin les sports de combat, etc. Et puis une troisième partie, les sports artistiques pour l'apparence corporelle. Mais effectivement, donc si on revient sur les sports d'endurance, dans les sports d'endurance, donc il y a une croyance qui est assez ancrée, c'est le fait que si je maigris, je vais être plus performant. Si je perds du poids, je vais être plus performant. Alors, cette croyance, elle est vraie en partie, c'est-à-dire dans une certaine mesure. Quelqu'un qui part avec un poids élevé, effectivement, qui se met à faire de l'endurance, qui perd du poids, effectivement, il va se sentir mieux. Déjà, sa capacité cardio-respiratoire va s'améliorer. Mais bien sûr, il va perdre du poids et donc du coup, il aura moins de difficultés à se déplacer. Donc, ses performances vont augmenter. Ça, c'est vrai dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'à un moment où toi, tu es à ton poids de forme, maigrir plus, ça va pas t'aider. C'est-à-dire que au bout d'un moment, on le sait, et donc je vais peut-être parler du REDS à ce moment-là, la puissance va diminuer, et puis il va y avoir tout un tas d'adaptations physiologiques qui vont se faire et qui vont t'empêcher de performer, en gros à terme. Et donc, c'est pas forcément vrai. Mais du coup, effectivement, dans la sphère endurance, il y a beaucoup de croyances sur le poids et beaucoup de croyances sur le contrôle du poids, comme quoi le poids serait aussi de notre propre volonté. Ça veut dire qu'on choisirait notre poids et qu'on serait capable de pouvoir maintenir et garder ce poids en contrôlant vraiment notre alimentation et notre activité physique. Faut savoir que le poids, les facteurs qui interviennent sur le poids sont multiples. Ça comprend notre génétique, ça comprend notre environnement. Enfin bon, il y a vraiment énormément de facteurs. Donc oui, mais en fait, il y a une pression globale de la société autour du poids.
Ben justement, c'est une question qu'on s'est posée, nous. Comment, en fait, tu expliques que le poids est devenu une source de souffrance et même une source
d'anxiété permanente
à ce point-là, chez tout le monde, en fait. Hein.
Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. Ben, d'une part, il y a les messages de santé, les messages des politiques de santé qui sont très, très alarmistes sur... le terme d'épidémie d'obésité, d'épidémie de maladies cardiovasculaires, de diabète, etc. Alors qu'on ne nous explique pas vraiment que le poids, ce n'est pas de notre propre volonté et que manifestement, si on se met au régime et qu'on développe des troubles alimentaires, par exemple, mais même il y a certaines personnes qui se mettent au régime et qui malheureusement n'ont pas de connaissances en nutrition et qui vont faire des régimes vraiment drastiques du type Cohen, Ducamp et compagnie et qui vont reprendre le double de poids après. Donc je pense que déjà il y a un message anxiogène des politiques de santé publique en fait à ce niveau-là. Il n'y a pas d'explication autour de comment se régule le poids, etc. Il n'y a pas d'éducation à l'école sur comment on grandit, en fait, comment notre corps fonctionne bien. Et je pense que déjà, dès l'enfance, les médecins, que ce soit les médecins, les personnels scolaires, donc ça peut être l'infirmière scolaire, etc., vont créer une sorte de stigmate sur les enfants qui pourraient éventuellement sortir un petit peu des courbes. Donc déjà, ça crée un environnement anxiogène familial chez les parents, chez l'enfant. Et puis après, l'enfant, généralement, il développe une relation à la nourriture qui est déplorable, en fait. Parce que toute son enfance, on lui a dit qu'il fallait qu'il fasse attention, qu'il fallait pas qu'il mange trop et qu'il fallait pas qu'il devienne gros. Et du coup, ça se répercute bien sûr sur la construction de son identité. Ça se répercute évidemment sur sa pratique sportive, parce que les personnes grosses, que ce soit, enfin tous les genres en fait, les personnes grosses vont avoir plus de mal à s'engager dans l'activité physique. Pourquoi ? Ben, parce qu'elles n'ont pas confiance en elles à ce sujet-là, et parce qu'elles se sentent aussi rejetées et ne pas appartenir à la communauté sportive. Donc en fait, c'est vraiment la grossophobie. Donc la grossophobie, c'est vraiment d'avoir des pensées et des comportements de rejet, on va dire, vis-à-vis de la grosseur, vis-à-vis de la prise de poids. La grossophobie, c'est quelque chose qui est systémique dans la société. Donc c'est pour ça, en fait, qu'on est tous super anxieux à ce niveau-là, parce que c'est systémique. Ça, c'est sociétal, c'est familial, c'est médical, et du coup, ça, effectivement, ça s'infiltre en fait dans tous les domaines de notre vie.
Et comment tu penses que, justement, dans ce système, les réseaux sociaux viennent s'implanter en fait ?
Bonne question.
Ça vient jouer.
Bah, je pense que les réseaux, c'est un peu à double tranchant. Il y a du positif, bien sûr, il y a des podcasts géniaux, il y a vraiment des professionnels qui sont super à ce niveau-là. Sur Instagram, je pense par exemple au chercheur Benoît Arsenault, qui est canadien et qui vulgarise vraiment des recherches scientifiques d'une qualité extraordinaire, et qui nous explique justement que le poids, ce n'est pas de notre volonté, enfin vraiment qui prend le temps de bien expliquer les choses. Donc si vous voulez voir son Instagram, il s'appelle Benoît Arsenault, et je crois que sa chaîne YouTube qui est sortie il y a pas longtemps s'appelle Les Voies Métaboliques, si je ne me trompe pas. Donc il y a un bon côté à Instagram, et puis à Instagram, aux réseaux sociaux, on va dire, en particulier. Mais il y a aussi beaucoup de négatifs, parce que l'industrie des régimes fait vendre beaucoup. Le marketing autour du culte du corps fait vendre beaucoup. La perte de poids, c'est quelque chose qui est extrêmement valorisé. Donc ça peut se manifester par des comptes même personnels, en fait, qui documentent leur perte de poids, le fait de contrôler leur alimentation, leur activité physique, et ça, les gens sont friands de ça. Même il y a même des contenus troubles alimentaires, hein, qui peuvent être assez problématiques, des personnes qui exposent leur recovery, enfin leur guérison de troubles alimentaires, qui peut être pas du tout encadré par des professionnels de santé, mais en fait qui peuvent aussi être très violentes pour certaines personnes qui passent par là aussi, parce que voilà, la guérison de chacun est différente. Donc les réseaux sociaux, ça va vraiment être un catalyseur de un peu de positif, et je dirais même un tout petit peu de positif, parce qu'il y a extrêmement peu de nuances aujourd'hui dans les contenus qui sont partagés, parce qu'on est toujours en fait oppressé par le besoin de performance, de poster plus rapide, plus vulgarisé, et donc vraiment sans nuance en fait dans l'information qui est apportée. Et une grosse partie, je trouve, de négatif, parce qu'il y a beaucoup de fausses informations, il y a beaucoup de contenu problématique, et du coup, malheureusement, les gens sont un peu perdus aussi dans ce qu'ils entendent. Et malheureusement, je pense qu'on a tous ce biais de vouloir aller au plus facile, au plus intéressant pour nous, et voir peut-être ce qui peut nous donner la récompense en fait la plus rapide et la plus facile, alors que la réponse, elle est jamais simple.
Très bien, je vais revenir sur quelque chose que tu as dit et que j'ai trouvé très intéressant. Tu as dit que le poids, c'est pas une question de volonté, et est-ce que tu peux un peu préciser cette notion là et justement quelle est la part de la volonté dans la prise ou dans la perte de poids, justement?
Alors la part de la volonté, je la connais pas. Je sais pas si quelqu'un la connaît déjà. Mais en gros, les facteurs qui vont influencer déjà, ça va être la génétique. On sait que la génétique a une grande place en fait dans l'intervalle de poids, en tout cas d'équilibre. Donc, on va dire que le poids d'équilibre, c'est le poids où ton corps fonctionne bien, où toi, tu ne te sens pas restreint dans ton alimentation et où tu pratiques ton activité physique avec plaisir et que tu es énergique, etc. Mais après, il y a les contextes, donc je disais, le contexte socioculturel aussi. Quelle éducation alimentaire tu as eue ? Est-ce que toi-même, quel est le budget que tu peux allouer à ton alimentation ? Quel est le temps que tu peux allouer à ton alimentation ? Comment tu travailles ? Est-ce que tu travailles avec des horaires qui sont hachés ? Est-ce que tu as de gros volumes horaires de travail ? Est-ce que tu as eu des traumatismes aussi dans l'alimentation, dans l'enfance ou dans l'adolescence ou dans le début de l'âge adulte à propos de l'alimentation ? Justement, est-ce qu'on t'a forcé à finir ton assiette tous les jours parce que sinon on t'a dit que c'était du gaspillage alimentaire et que des petits enfants africains allaient mourir à cause de toi ? Est-ce que, tu vois, quelle est la relation finalement, quel comportement alimentaire tu as développé par rapport à la nourriture ? Ça, ça a un impact qui est énorme. Ça veut dire que les personnes qui ont été restreintes petits dans leur enfance, voire dans leur adolescence, et qui ont développé vraiment une relation amour-haine avec la nourriture, ça peut être très compliqué de maintenir un poids stable, en fait. Et puis après, il y a aussi les facteurs, donc facteurs budgétaires, j'ai dit, financiers, et puis aussi facteur évidemment santé, c'est-à-dire est-ce que tu vis une dépression, est-ce que tu as vécu un AVC et que tu ne peux plus te déplacer correctement, est-ce que tu t'es blessé. Tout ça, ça intervient en fait sur la régulation du poids. Et donc plus on va vouloir le contrôler et plus on va vouloir rigidifier son alimentation et plus on va vouloir se peser, etc., et plus on risque de développer des comportements qui vont être complètement coupés de nos sensations, de nos signaux internes en tout cas, et dans le non-respect de soi.
Et est-ce que pour toi, le facteur sexe va jouer un rôle ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une différence aussi quant à la relation alimentation entre les hommes et les femmes que tu observes ?
Oui. Alors, il y en a une, et clairement, la littérature scientifique le dit aussi. Déjà, les femmes, elles sont plus sujettes, en tout cas, c'est ce qu'on retrouve maintenant. Alors, je vais peut-être nuancer ce que je vais dire, mais on s'est rendu compte quand même depuis très longtemps que les femmes reportaient plus de symptomatologie de troubles alimentaires que les hommes, en tout cas que les individus de sexe masculin. Mais je nuance quand même parce que les questionnaires, ils sont pas tous très adaptés justement aux individus de sexe masculin, et notamment dans le sport. Et les troubles alimentaires, c'est aussi une des pathologies qui sont sous-reportées par les gens par honte. Et donc, dans le sport, par exemple, on se demande quand même si... Est-ce que les hommes ne sont quand même pas plus nombreux que ça à présenter des troubles alimentaires, mais ils le passent sous silence. Donc, je vais peut-être nuancer ce que je vais dire. Là où je veux en venir quand même, c'est les femmes ont quand même une pression sur leur poids et sur leur image corporelle qui est très ancienne et qui varie selon les époques. Et malheureusement, elles subissent une pression sociale qui est très importante. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Une femme, elle sera toujours vue en priorité par son apparence physique, quand un homme sera peut-être perçu différemment. Donc oui, il y a des différences. Et du coup, moi, évidemment, je le retrouve dans ma pratique puisque j'accompagne des femmes qui ont perdu leur cycle menstruel, donc généralement qui ont une aménorrhée hypothalamique, plus spécifiquement parce qu'on peut avoir une absence de règles et ne pas avoir d'aménorrhée hypothalamique. Donc l'aménorrhée hypothalamique, c'est lorsque le corps court-circuite les cycles menstruels parce qu'il n'a plus suffisamment de stock d'énergie pour faire fonctionner cette partie hormonale-là. Moi, ce que je retrouve dans la pratique, parce que j'accompagne aussi des individus de sexe masculin, en fait, j'accompagne des personnes de tous les genres, mais ce que je vois quand même, c'est que les individus de sexe féminin et les individus non-genrés, par exemple, peuvent subir énormément de pression sur leur apparence physique, et du coup, ça a une répercussion sur le contrôle du poids. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, je suis allée un peu loin, mais c'est vraiment la, pour moi, c'est vraiment la pression sociale qui fait la différence. Et donc, c'est pour ça que c'est important de ne plus juger les gens sur leur poids et leur apparence, peu importe leur sexe, en fait, ou leur genre.
Je pense que beaucoup de problèmes seraient réglés si tout le monde, tout le monde faisait ça.
Oh,
heureusement,
oui.
C'est pas si facile, je pense.
Moi, j'ai une autre question par rapport au podcast et ton compte Instagram. Et qui t'a donné envie de faire de la médiation scientifique sur le sujet de l'alimentation, mais également de manière plus générale sur les femmes?
En fait, le parcours universitaire que j'ai eu était très scientifique. Orthophonie, peut-être on n'a pas idée, mais c'est un master qui est très rigoureux, avec un mémoire de recherche à la fin. Donc j'ai fait des expérimentations, etc. Nous, on avait des chercheurs qui nous donnaient cours. Donc j'avais déjà un pied là-dedans. Et en fait, je pense que moi aussi, j'ai souffert d'une alimentation qui était troublée. Et du coup, ça faisait écho en moi de voir des choses fausses, je pense, sur les réseaux. Et du coup, c'est comme ça, en fait, que j'ai voulu créer mon compte Instagram, professionnelle à la base. Et ensuite, je suis devenue un peu une geek de PubMed. Et donc, souvent, je me perds dans des vortex. Manon vous le dira, elle se perd aussi dans les vortex. Je pense qu'il y a plein de choses intéressantes à partager au grand public, à vulgariser au grand public pour sensibiliser sur différents sujets. Et même si c'est pas toujours facile, je prends quand même plaisir à le faire en étant la plus nuancée possible, du moins je l'essaye en tout cas.
Et du coup, tu as mentionné ton histoire, notamment au sujet de l'alimentation. Et comment, en fait, ton vécu et ton expérience vient nourrir l'accompagnement que tu peux donner et ta pratique? Comment tu lis et ta connaissance universitaire et ton vécu?
C'est une question qui est difficile parce que, justement, je mets un point d'honneur vraiment à séparer les deux. C'est-à-dire que, en fait, je ne peux pas comprendre ce que la personne vit. Ça veut dire que je suis pas à sa place et que chacun a son vécu à ce niveau-là. Et que moi, peut-être que les choses qui m'ont fait souffrir ne la font pas souffrir, cette personne-là. Par contre, ce que je sais, c'est que... Mais ça, c'est commun, en fait, à tout le monde. Ça revient à l'image corporelle et à la pression qu'on se met pour contrôler notre poids et notre apparence physique. Et ça, je pense que tout le monde est capable de comprendre la personne qu'on a en face de soi et qui nous dit « moi, j'ai peur de grossir parce que on m'a vu fine et affûtée et j'ai peur de paraître comme une personne qui se laisse aller. » Ça, je pense qu'on est tous capables, en fait, de le comprendre. Donc finalement, mon vécu personnel, c'est pas quelque chose qui vient dans ma pratique, si tu veux. Après, quand on me demande, voilà, quand on me pose une question, par exemple, par rapport à mon histoire, je peux en parler, mais en laissant de côté certaines choses qui ne sont pas pertinentes.
Moi, je trouve ça intéressant, justement, ton histoire, et comment t'es arrivé aujourd'hui à un état d'équilibre? Comment tu t'en es sorti, entre gros guillemets, de ces troubles-là et comment tu gères aujourd'hui tout ça?
Avec beaucoup de psychothérapie. il n'y a pas de secret, ça prend du temps. Il faut vraiment se faire suivre par quelqu'un avec lequel on est bien, voire changer de professionnel si on sent que ça va pas. Moi, j'ai changé de professionnel plusieurs fois, tout simplement parce que des fois... avec un professionnel, on atteint un point, on a fini, en gros, une certaine partie du travail et finalement on recommence avec quelqu'un d'autre parce qu'on a besoin d'autre chose. On a besoin d'autres techniques, d'autres, voilà. Ce qui est très important aussi pour moi dans ces sujets-là, c'est surtout de ne pas rester isolée. Donc, si j'ai bien un message à faire passer, c'est que si vous souffrez de votre alimentation, de votre poids, ou même que vous avez l'impression de ne pas pouvoir contrôler le fait de toujours vouloir faire du sport, toujours vouloir faire plus, etc., il faut vraiment pas vous isoler et en parler. C'est super important parce que ça peut vraiment impacter votre vie à long terme. Donc, ne pas s'isoler. Et moi, ben, j'ai eu la chance quand même d'être entourée de personnes qui ont été super bienveillantes avec moi. Et honnêtement, j'ai eu beaucoup de chance aussi parce que les médecins, en tout cas, que j'ai rencontrés, j'ai jamais été confrontée à du jugement par rapport à ça, quand je me confiais par rapport à ça. Donc ça aussi, c'est vraiment super important. Consulter des thérapeutes, des médecins qui sont vraiment bienveillants avec vous et qui vous font vous sentir en confiance. Si vous allez chez un praticien, qui est là pour vous soigner, il y a vraiment aucune raison, il y a zéro raison que cette personne vous fasse ressentir que ce soit du jugement ou de la culpabilité. Donc vraiment s'entourer de professionnels qui sont vraiment bienveillants avec vous-même et que vous sentez soutenu en fait. Et à part ça, aussi se créer son petit noyau de personnes en dehors par exemple du contexte médical, mais son petit noyau amical. Qui fait que vous savez que vous pouvez compter sur eux. Ils sont là pour vous soutenir dans les mauvais moments, mais aussi dans les bons moments. Et donc ça, c'est vraiment protecteur, que ce soit au niveau santé mentale, mais aussi au niveau santé physique, les personnes avec lesquelles vous pouvez partager des repas en toute simplicité, sans parler de performance, de régime, de choses comme ça. Je pense qu'on se comprend bien. Ça, c'est hyper important et c'est très protecteur. Donc, ça serait mes trois conseils.
Mais merci beaucoup pour ces conseils. Donc, on arrive à la fin du podcast. Est-ce que tu peux nous partager une ou plusieurs ressources qui ont marqué ton parcours, ta pratique? Ça peut être plein de choses, podcasts, oui. Livres, films, c'est ce que tu veux.
J'ai un livre en tête. J'en ai deux. Ouais, alors, moi, il y a un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est de Russ Harris, donc c'est Le Piège du Bonheur. Il s'appelle Le Piège du Bonheur. En fait, je pratique l'ACT, donc c'est une forme de thérapie cognitivo-comportementale. En gros, en français, c'est la thérapie d'acceptation et d'engagement. Et c'est vraiment quelque chose qui a façonné, je la pratiquais déjà un petit peu en orthophonie. Avec mes patients qui avaient du bégaiement, et c'est vraiment une possibilité qu'on s'offre de changer son regard sur ce qui est pénible, en fait, qu'on peut vivre, et de vraiment arrêter de dépenser autant d'énergie et de lutter pour des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et investir son énergie plutôt vers les choses qui peuvent nous apporter du changement et vers les choses qui sont importantes pour nous, en fait. Donc ça, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup apprécié et qui se lit super bien. En podcast, alors c'est vrai qu'en francophone, j'écoute pas grand-chose en podcast. Il y a le podcast d'Alice Hussonnois, qui est diététicienne spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire, qui est vraiment génial, qui est une très très grande ressource. Voilà, et une professionnelle que je conseille également, qui est d'une grande bienveillance et qui est très, qui est vraiment super. Donc ces deux choses, je dirais, c'est déjà pas mal. Parce que j'avoue que je lis beaucoup, beaucoup d'articles. Et du coup, très peu de choses un peu plus grand public.
Ok, et pour finir, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu es bien dans tes baskets?
Ouais, je dirais qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de cailloux. Que parfois j'ai des cailloux, parfois j'ai des grains de sable, mais que j'arrive quand même beaucoup mieux à les enlever ou à marcher avec un petit peu sans être trop blessée, on va dire. Donc voilà.
Mais super. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous pour cet épisode. On a passé vraiment un chouette moment. Et à bientôt.
Salut Barbara.
Et bien à bientôt.
Salut.
Merci à vous.